Attends, j'ai envie de parler, donc je parle ou un truc comme ça.
Ben pour moi, la culture, c'est d'abord mettre une graine dans de la terre, et ça pousse, et puis ça fait des choses assez extraordinaires parfois.
Travail assidu et méthodique qui tend à élever un être humain au-dessus de l'état de nature.
Curieux et inspiré. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui unit, et en même temps, ça différencie, mais ça n'a pas à être quelque chose qui nous sépare, en fait.
Moi, le but, c'est provoquer la révolte, quoi. Enfin, la rage, un peu d'émotion, d'espoir.
Je suis en train de me resservir.
On a franchi la ligne rouge. On vous aime. Bisous.
L'école volante sur Radio Piquet.
Bonsoir, bienvenue à notre émission L'école volante, notre émission de débat sur Radio Piquet. Alors ce soir, le thème développé sera Gilets jaunes, bilan et perspective. Donc on a intitulé cette émission Gilets jaunés. Alors je vais vous présenter les invités. Donc à ma gauche, Camille.
Ouais, salut.
Après, nous avons ce soir
Brigitte,
Manu,
Seb,
Dizane,
Nico,
et à la technique
Dubois.
Donc voilà, je vais commencer par introduire le sujet en faisant une présentation le plus rapide possible du mouvement des Gilets jaunes. Donc je vais essayer d'être le plus scientifique possible, et ne m'en voulez pas si j'oublie des choses.
Ça va durer 2 heures.
Non, on va essayer de faire ça en moins de 5 minutes. Donc c'est un peu d'après des livres... moins encore, 3 minutes. C'est d'après un peu des livres écrits sur le sujet, les premières analyses historiques, sociologiques, etc., des articles, un peu tout ce qu'on a pu trouver à droite à gauche. Alors déjà, le contexte général, c'est une France désindustrialisée, à fort taux de chômage, pas encore remise de la crise de 2008 et de la crise de la dette dans la zone euro, avec une gentrification, un étalement urbain, donc avec un découplage entre le lieu de travail et de logement. D'où la nécessité de la voiture pour aller travailler, et donc voilà, c'est pour ça que c'est vachement parti sur ce truc de l'essence, la bagnole, parce que les gens dépensaient pas mal de fric là-dedans. Dans les grandes lignes, les Gilets jaunes, c'est une classe moyenne basse périurbaine en voie de paupérisation du fait de la hausse des dépenses contraintes, loyer, électricité, gaz, denrées alimentaires, essence, gasoil, et donc c'est cette fameuse taxe sur l'essence, appelée TICPE, qui mit le feu aux poudres. Avant cela, il y a eu les fameux 80 km/h, la pétition de Priscilla Ludowski, les appels de Jacqueline Moureau et Éric Drouet, les réseaux Facebook de ce dernier, de Maxime Nicole aussi, alias Flyrider. Donc, je vais faire un petit historique du mouvement. Donc, ça a commencé le 17 novembre, avec 300 000 personnes d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, on va dire 1 300 000 d'après le groupe Policiers en colère. Bizarre, qui, voilà, pour une fois, les flics donnent plus. À partir de l'acte.
Du travail, pardon.
Non, pas de souci, vous pouvez intervenir dans ce que je dis. Parce que, à partir de l'acte 17 et jusqu'au 33, il y aura le nombre jeune qui fera un autre décompte du côté des manifestants, qui sera sensiblement différent de celui des flics. Le 1er décembre, insurrectionnel à Paris, donc notamment avec l'Arc de Triomphe, vandalisé, mon Dieu, mais aussi en province avec l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay, le péage de Narbonne dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018. Et c'est après qu'arrive la revendication du RIC, plébiscitée par Maxime Nicole, qui calme un peu les choses aussi. Ils mettent un paquet de flics, de toute façon, pour l'acte suivant, le 8 décembre. Le 10 décembre, Macron parle, accorde des miettes aux Gilets jaunes. Fin janvier, tentative de structuration du mouvement, avec la première ADA à Commercy. Après, il y aura Saint-Nazaire et plein d'autres. Bon, après, ça reste minoritaire, on va dire que c'est environ peut-être 10% du mouvement. Et c'est plus à gauche, faut bien le dire. Le 5 janvier, c'était assez sympa avec ce fameux transpalette qui enfonce la porte du ministère de Griveaux et d'Étinger le boxeur. Arrive le grand débat le 15 janvier, jusqu'au 15 mars, histoire de noyer le poisson. En parallèle, il y aura le vrai débat organisé par les Gilets jaunes. Bon, après, il faut bien dire qu'il y a une baisse du mouvement, malgré quelques pics. Donc, le 16 mars, avec l'incendie de Fouquet's. Le 1er mai, bon, un peu punchy. Le 14 juillet, chamailleur, comme dirait Macron. Le 26 mai, les élections européennes, on va dire, deux listes, Gilets jaunes, recueillent moins de 0,6% des suffrages. Bon, le 25 avril, il y a encore des promesses de Macron, mais on va même pas les lire parce qu'en fait, il va rien tenir. Le 21 septembre 2019, il y a la marche climat, donc c'était assez animé aussi, on va dire. Le 5 octobre 2019, il y a une convergence avec XR pour le blocage du centre commercial Italie 2. Et là, tu es passé à la partie répression, et il faut savoir que le mouvement a été très réprimé. Voilà, on n'avait pas vu ça depuis la guerre d'Algérie. Quelques chiffres, 2495 manifestants blessés depuis le 17 novembre 2018. Donc les chiffres, c'est en novembre 2019 hein, qui sont arrêtés. 24 éborgnés, 5 mains arrachées, un mort autour du manif Gilets jaunes, donc c'était Zineb Redouane à Marseille. 10 718 gardes à vue, 3000 condamnations, 13 905 tirs de LBD, 313 enquêtes pour violences visant les forces de l'ordre. Maintenant, je vais passer la partie.
Le nombre de morts n'est pas bon. Alors, j'ai pas le nombre exact, mais dans les premières manifs, il y a quelques personnes qui ont été renversées par des voitures,
ouais,
etc.
Alors, je précise, ouais, c'est les morts en fait des suites des flics que je donne. Enfin, okay. c'est par rapport aux violences policières.
Okay.
Et c'est vrai que il y a eu des gens écrasés, tout ça. Désolé pour eux, je ne vais pas les citer. Voilà. La coloration politique du mouvement. Donc c'est un mouvement pas vraiment spontané en fait, parce que sur les réseaux sociaux il y avait quand même la patriosphère en amont qui s'était on va dire hein, pour aller vite, qui s'était
mise en route
qui avait activé des réseaux, notamment Debout la France, avec la création aussi en amont de groupes colère 29, colère machin, colère etc, en réaction notamment aux 80 km/h.
Il y avait Bruno Jeudy en gilet jaune sur BFM aussi.
Ah, je pense que c'était... c'est pas Bruno Jeudy, c'est l'autre. Un autre ouais. Qui disait qu'il soutenait le mouvement, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, qui était en gilet jaune sur BFM, ouais, faut y aller et tout. Quoi.
Son nom m'échappe.
Au tout début, hein.
Son nom m'échappe. Il est sur BFM, et c'est... Ouais. Après, on va dire que d'après une enquête à travers des groupes Facebook de gilets jaunes, environ 37% d'entre eux ne s'intéressent pas à la question, enfin, par rapport à la politique, hein, je veux dire, s'étaient abstenus ou n'étaient pas en mesure de voter aux élections présidentielles. Un cinquième avait voté pour l'URN, Rassemblement National, 18,44% pour la France Insoumise. Donc ça, c'est tiré du livre Ingirum de Laurent Jean-Pierre. Mais il y avait un consensus à ne pas évoquer la politique qui divise et à se dire à partidaire et à syndical, et de mettre un peu ce qui divise sur le côté. Il y avait quand même la présence de l'extrême droite militante aussi au début du mouvement, notamment par exemple l'Action française, qui pouvait manifester à Paris à côté d'anarchistes, de machin, enfin, ça, c'était vraiment un mélange. Et l'extrême droite s'est fait un peu virer progressivement, et l'extrême gauche est plus arrivée aussi, avec aussi la présence quand même de Black Bloc, mais peut-être dès le début. Hein. Et en janvier, on va dire que par rapport au bouquin qui étudie le mouvement des Gilets jaunes, ce qui ressort souvent, c'est que sont arrivés en janvier des militants politiques et syndicaux, donc de gauche plutôt, dans le mouvement, un peu partout en France, et notamment dans les AG et tout ça, et qui ont apporté aussi un savoir-faire, bon, voilà, et bon, ça peut être critiqué par ailleurs. La sociologie du mouvement, au début, il y avait beaucoup de petits patrons, souvent qui étaient leaders, et qui quittèrent petit à petit le mouvement, à mesure que celui-ci allait sur des revendications plus sociales. Donc beaucoup d'entrepreneurs, d'artisans, des retraités, des jeunes déclassés, des ouvriers, 26% d'après Emmanuel Todd, des employés, 21% d'après Todd aussi, avec une forte présence de femmes, 47%. On a vu beaucoup d'handicapés, notamment en première ligne, des fois à se faire gazer voilà, en tête de cortège, beaucoup de chômeurs, 1000 euros sur les ronds-points, 1400 en manif, d'après Emmanuel Todd, toujours, dans son livre « Les luttes des classes en France au XXIe siècle ». La composition aussi, c'est des gens travaillant dans le tertiaire, prolétarisés, dans l'économie de flux, dans la logistique pour les hommes, souvent des caristes, des chauffeurs routiers, comme Eric Drouet, pardon, comme Johnson. Et pour les femmes, souvent dans le soin, donc assistantes maternelles, aides-soignantes, ce genre de choses, comme Ingrid Levavasseur, par exemple. L'originalité du mouvement. Donc c'est un mouvement très désinstitutionnalisé, donc c'est dur à dire, à chaque fois je me plante, asyndical, apartidaire, une certaine spontanéité, avec les manifs non déclarés, dans des endroits un peu inattendus, les longues marches souvent improvisées, et aussi dans les quartiers riches et les lieux de pouvoir à Paris. Donc il y a le Monde diplomatique qui avait montré une carte comme ça, qui différenciait des manifs syndicales qui, elles, évitaient les lieux de pouvoir, quand les gilets jaunes, ils allaient vraiment dans tous les lieux de pouvoir à Paris, autour, et puis les quartiers riches.
Et il y a eu des blocages aussi, bien avant les manifs, il y avait déjà des blocages de structures comme McDonald's et tout ce qui s'ensuit. Avant, en étant sur les ronds-points, déjà, on luttait déjà contre, contre tout ça, avant même d'aller faire des marches.
Dans l'Hexagone.
Ouais, voilà, on allait partout où on pouvait empêcher voilà, les multinationales de continuer à exploiter, et ainsi de suite. Mmh. Station-service, et ainsi de suite. Tous les jours, on faisait des actions qui étaient vraiment impactantes pour eux. Et les gens, je pense que ça a gonflé le mouvement aussi quand les gens ont vu ce qu'on pouvait faire. Quoi.
Mmh. Et... du coup, ouais, sans plus, j'avais pas vraiment parlé des blocages. Un mouvement, c'est aussi un mouvement social, donc additionne des souffrances atomisées. Et avec, bon, là c'est d'après Christian Lebart, où il parle de la difficulté de créer vraiment un nous, quelque chose de, bon, voilà, qui dépasse un peu cette somme d'individus, voilà, qui part de la vie quotidienne. Pour monter en généralité, donc il y a eu quand même une politisation accélérée assez impressionnante, même pour des fois des militants de gauche qui ont pu voir ça et qui le disent. Donc ça, c'est d'après Christian Jean-Pierre, toujours. Très localisé, avec le rond-point, la cabane, comme espace de... comme camp de base, comme de solidarité, tout ça. Christian Lebart parle aussi de trois légitimités du mouvement. Les réseaux sociaux, les plateaux télé, le terrain. Donc ceux qui en font beaucoup sur le terrain, voilà, qui vont être reconnus comme leaders. Et c'est souvent les personnels politiques et les médias qui construisent des porte-paroles. On peut prendre l'exemple d'Ingrid Levavasseur. C'était une équipe de télé qui avait crevé, et puis du coup ils sont allés au premier rond-point, et puis ils ont vu une femme rousse qui dégageait un truc, ils se sont dit, putain, elle est télégénique, et puis voilà, c'était lancé, quoi. C'est une anecdote dans le livre de Christian Lebart, toujours. Et pour finir, voilà, donc c'est un refus de l'institutionnalisation politique, syndicale ou même parfois de porte-parole. Et on peut voir que dès que quelqu'un prétend institutionnaliser le mouvement, il est évincé. Donc on a pu voir ça avec les listes de Shahinian et Levavasseur pour des élections. Et je finis très rapidement par les revendications qu'on peut synthétiser par plus de pouvoir d'achat. En deuxième lieu, plus de justice fiscale. Donc c'est de taxer les plus riches, rétablissement de l'ISF par exemple. Et en troisième point, plus de démocratie avec le RIC qui est la constituante. Voilà, c'est vraiment pour être synthétique et j'ai fini. Donc je vais peut-être vous demander de vous présenter. Je commence dans l'ordre par toi, Camille.
Si tu veux, ouais. Bah...
du coup, si tu peux te présenter brièvement, dire pourquoi et comment t'es arrivé dans les Gilets jaunes, si t'es arrivé seul. Et qu'est-ce que ça a changé, en fait, par rapport à ta vie d'avant ?
Bah, beaucoup de choses. Ouais, moi, je suis arrivé seul et je viens du secteur du soin. Et ça a permis de se rendre compte que, qu'il existe une méconnaissance des luttes sociales dans le secteur du soin, qu'il y a un vrai manque à ce niveau-là, et que dans les classes sociales qu'on peut qualifier de hautes, il y a un vrai mépris de classe envers les classes sociales considérées comme plus basses. Et que ce fossé-là, il est à détruire, mais ça va être long. Mais on va essayer. Voilà.
Alors moi c'est Brigitte, je suis arrivée seule aussi, mais moi je suis pas arrivée le 17, je suis arrivée le 18. J'ai laissé faire.
Pas bien.
Du coup, je suis arrivée seule le 18 sur le rond-point de IKEA. Et comment...
Pourquoi t'es venue ?
J'étais... En fait, moi, je revendique surtout c'est la place de l'ouvrier dans la société, la place des jeunes. J'ai 4 enfants, j'ai un enfant de 21 ans qui galère, qui est complètement perdu dans la société. Et on n'en parle pas beaucoup. La place de l'ouvrier qui travaille comme un taré et qui est payé une misère. Moi, quand j'ai démarré dans les Gilets jaunes, j'étais au chômage. Je suis normalement encadrant technique dans l'insertion, donc je connais bien ce milieu de l'insertion. Ces gens-là qui ont du mal à se réinsérer, justement. Et je trouvais pas de boulot, et du coup, je me suis... là, j'ai trouvé un poste dernièrement de plongeuse dans la restauration. Enfin, je vous dis ça, c'est pour vous montrer que les Gilets jaunes, c'est pas des feignants, comme on dit, et que des chômeurs, quoi.
Il y en a beaucoup, quand même.
De chômeurs, je veux dire.
Ouais,
de chômeurs.
Il y en aura plus en plus. Il y en a beaucoup.
Et il y en aura de plus en plus.
Avec ce qui se passe.
Après, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup que c'est tous des fainéants.
Ah, non.
Et du coup, voilà, je sais plus trop où j'en suis là.
T'es arrivée seule
demain? Oui, je suis arrivée seule, ouais. Et ça m'a apporté énormément parce que ben moi j'ai 4 enfants, des grands enfants, je suis mamie, j'ai 3 petits enfants. Je m'intéressais à la politique de loin. Je croyais les infos, je croyais BFM TV, je croyais TF1, j'y croyais. Moi je pensais que j'étais hyper naïf quoi. Et ce mouvement des Gilets jaunes, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté une vision, une autre vision des médias et du gouvernement, en fait. Et ce que ça m'a apporté aussi, c'est de rencontrer plein de gens qui étaient en fait comme moi, et du coup, ça nous a permis à tous de pas avoir honte de notre situation, quoi. Et cette fraternité, aujourd'hui encore, ça fait 2 ans, et les gens que j'ai rencontrés il y a 2 ans, je les côtoie encore aujourd'hui, on a créé un lien, c'est presque une famille. Si je sais que demain, si j'ai un problème, je sais que je serai soutenue, et si mes amis, mes camarades gilets jaunes, enfin moi je dis gilets jaunes, c'est plus le peuple, enfin
des citoyens,
et ben je serai là aussi pour leur venir en aide, quoi. Et voilà, la fraternité et puis la solidarité, en fait, c'est super. Et j'espère que ça va continuer encore longtemps.
Donc c'est Manu, donc moi je travaille dans le médico-social. Donc je suis arrivée dans le mouvement des Gilets jaunes le 17 au matin, 5h30, un appel à 5h30, enfin bref, à côté du Leclerc, bref. Je ne suis pas arrivée seule, je suis arrivée avec un ami. Et en fait, moi je savais depuis un moment qu'il nous mentait. En fait, moi c'est en 2005, quand ils ont boycotté notre référendum, que là je me suis dit, c'est de la connerie, quoi. En fait, on aura beau voter, ils feront ce qu'ils ont envie, quoi. Et donc, je me suis intéressée de plus en plus à la politique et à leur connerie, hein, finalement. Et le mouvement des Gilets jaunes, ce que ça m'a apporté, c'est en fait, je me suis dit, en fait, je suis pas toute seule. Avant, je râlais dans ma cuisine en disant, ils se donnent la gueule et tout. Et là, en fait, on était des milliers à penser la même chose que moi. Donc, je me disais, je suis pas débile, en fait. Je suis pas la seule à penser ça, quoi. Et comme Brigitte disait, en fait, moi, j'ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais pu rencontrer. Des gens qui m'apportent beaucoup, parce que, c'est une amitié qu'on a créée entre nous, quoi. Et donc, voilà, je tiens beaucoup à mes camarades. Voilà.
Moi, c'est Seb Jézéquiel. Alors, moi, contrairement à mes copain de lutte, je vais dire ça comme ça. Je suis arrivé même bien avant ça parce que j'étais déjà au premier rendez-vous qu'il y a eu à Océanopolis début septembre. Il y avait eu un premier rendez-vous en début septembre où ça commençait à se mettre en place. Enfin, les gens commençaient à gronder sur ce qui se passait avec l'augmentation des charges sur le gasoil. Donc je me suis présenté à ce rendez-vous. Un petit peu comme ça par hasard pour voir un petit peu ce qu'allait se dire, étant donné que moi j'avais déjà fait des manifestations sur Paris avec Sauvons nos entreprises en 2010-2012, car je suis artisan et que voilà, les charges toute l'année arrivent à un moment, on peut pas continuer comme ça. Donc j'avais déjà fait des manifestations qui n'ont rien donné finalement, parce qu'on est toujours autant taxés. Donc le premier rendez-vous, les gens étaient un petit peu avait du mal un petit peu à se lancer, à prendre des décisions et choses comme ça. Donc voilà, on discutait de comment on allait faire, qu'est-ce qui allait se mettre en place. La date aussi du rendez-vous du 17 novembre. Et ce jour-là, on a fait une première offense, je vais dire, à ce gouvernement, c'est qu'on est parti en opération escargot sur la ville de Brest. Qui a très très bien fonctionné d'ailleurs, et qui les a pris un petit peu par surprise, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Donc voilà, tout a commencé là, et de ce rendez-vous, J'ai discuté un petit peu avec mes salariés, avec des amis, avec de la famille, sur ce fameux rendez-vous le 17 novembre, savoir qui allait y aller ou pas ce jour-là. Et voilà, ça s'est mis en place, on est arrivé ce jour-là. Et moi, la première chose qui m'a surpris, c'est que finalement, il y a eu énormément de monde, malgré qu'il n'y a pas eu tant que ça de communication au début. Le parking était bondé, moi je suis arrivé avec mon tracteur, chargé comme une mule, ce qui a fait un petit peu le buzz les premiers jours aussi, je pense. Et on a vu tout de suite la répression policière se mettre en place. On n'a pratiquement rien pu faire, ça a commencé comme ça, donc de quoi bien m'énerver encore plus et me donner encore plus envie de venir sur le terrain. Et de ce jour-là, finalement, je me suis retrouvé sur le rond-point à allumer un feu avec une autre personne. Et la graine a pris sur le rond-point de Pénarqueuse. Moi, j'étais pas sur IKEA. IKEA s'est fait le lendemain, je crois, ou quelques jours après, dans la même semaine, mais pour essayer un petit peu de s'éparpiller sur le territoire pour les emmerder le plus possible les forces de l'ordre. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et honnêtement, moi, j'avais rien à faire là. Moi, je vivais très bien, chef d'entreprise, 14 salariés, j'avais pas à être là, mais quand j'ai vu la détresse de certaines personnes, ça a été compliqué de me dire je vais rentrer chez moi, je vais les laisser se débrouiller tout seul, sachant du milieu d'où moi je venais, c'était impossible pour moi de faire marche arrière. Et puis voilà, les gens ils ont commencé à arriver les uns après les autres, tout a commencé à se monter petit à petit, et puis voilà, la machine a été lancée, et puis voilà, que dire de plus, on pourrait en parler pendant... D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur tout ce qui s'est passé du début, enfin, du moins sur ce que moi j'ai vécu. Après, il y a plein de choses, hein. Il y a Paris, il y a plein d'autres villes, mais sur ce qui s'est passé sur la ville de Brest, du début jusqu'à maintenant, je suis en train d'écrire un livre, je suis en plein dedans, et puis il sortira quand il devra sortir, quoi.
Bon, moi, c'est Lisanne. Moi, je suis arrivé le 24 novembre. Voilà, mais tout simplement.
C'est pire que moi.
C'est pour ça qu'elle est en bout de table.
Voilà. J'étais tout simplement pas d'accord de descendre dans la rue par rapport à la taxe sur le carburant. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours une conscience politique, je me suis toujours rendu compte que ce monde tournait mal. Et je me suis demandé comment trouver sa place, quel avenir on pourrait avoir dans ce monde. Et que ce soit au niveau du travail ou au niveau d'autres choses, c'est pas parce qu'on est au chômage qu'on est feignant, loin de là. Et
un peu quand même.
Et voilà, enfin, il y a ce moment qui est né par rapport à la taxe sur le carburant. J'ai dit, c'est bon, c'est bien, il y a des gens qui se bougent, qui se révoltent. J'ai vu qu'au fur et à mesure, il y avait des revendications qui se rajoutaient. Je me dis, ouais, ça peut être intéressant. Et pour l'instant, on est en 2020. Et en fait, on a toujours été gouverné par des hommes cis, et toutes les révolutions qu'on a faites ont été récupérées par des hommes cis. Et je voulais essayer d'apporter une autre parole, en fait, et essayer de faire avancer encore plus les choses, parce que les revendications des Gilets jaunes sont bien, mais je trouve qu'elles vont pas assez loin. Et voilà.
On dit déjà qu'il y en a trop.
Ouais.
Je peux me permettre, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est qu'un homme cis ?
Un homme cis, alors...
C'est voilà. Un homme qui en a cis ?
Un homme cis, c'est un homme qui a été assigné homme à la naissance et qui se reconnaît en tant que tel. Voilà. Moi, je suis une personne trans, et en tant que personne trans, ben, on est marginalisé de la société, on n'est pas accepté, on est rejeté au niveau de la société, au niveau de nos familles, au niveau de nos amis.
Tout ce qui est différent est rejeté par la société.
Tout à fait.
Que ce soit ton corps ou il y a plein d'autres corps.
Bien sûr, ce qu'on vit est très très proche de ce que peuvent vivre les personnes migrantes en arrivant en France, en fait. Et voilà, en fait, un peu un ras-le-bol général. Et ce que m'a apporté le mouvement des Gilets jaunes, c'est... j'ai pris conscience un peu de toutes les personnes qui étaient dans les luttes... à Brest ou un peu partout en France, parce que ça m'a permis de pas mal voyager aussi. Et ça redonne un peu espoir, et ça permet de pas se sentir seul, et de voir aussi que je vois en fait plus les luttes avancent, et plus les personnes LGBTiques, ou qui sortent de la norme hétéro-cis-patriarcale, prennent une place importante dans les luttes. Voilà, si on enlève ces personnes, enfin, elles sont beaucoup plus présentes dans la lutte que dans la société en général, en fait. Donc ça donne un peu d'espoir.
Mais, du coup, moi je vais me présenter aussi parce que j'ai participé au mouvement.
T'as pas vu pourtant.
pas au début, je sais. Mais... du coup, moi j'avais quand même une culture un peu politique, tout ça, depuis le lycée, quand j'étais étudiant, de par ma famille aussi. Mais j'avais jamais vraiment participé en fait en tant milité en fait quoi. Et on va dire que pendant 10 ans j'étais plutôt en mode un peu nihiliste, cynique et détaché, et puis voilà, mais tout en suivant ça pardon d'un œil quand même. Sarkozy, j'avais déjà l'impression que c'était la bourgeoisie au pouvoir. Et quand j'ai vu Macron, je me suis dit, putain, la vache, il y a pire encore, quoi. Donc j'avais suivi un peu la campagne de 2017, et donc j'étais un peu effaré déjà par le marketing sur Macron. Et là, faut se souvenir de BFM hein, et tout ça. Hein, il est beau, ouais. C'est un prince philosophe, enfin c'est... Et Dieu. Puis il est subversif parce qu'il est marié à son ancienne prof qui a plus de 30 ans, enfin bon, tout ce baratin. Qui est cougar.
Le storytelling.
Tout ce storytelling. Et du coup, je m'étais mis à relire, à lire ce que je lisais plus, les trucs politiques et tout, machin, et l'économie. Donc je me suis mis à relire ça, à lire des bouquins là-dessus, et à suivre de plus en plus la presse. Et dans la presse, j'hallucinais parce que je voyais vraiment l'incarnation en Macron du néolibéralisme. En mode, je vais péter la SNCF, je vais privatiser ça, ça, ça et ça. J'avais du mal à suivre tellement il y avait de trucs, quoi, entre savoir si les barrages, c'était en cours, si ça allait se faire, hydroélectrique. Hein. Et voilà, enfin bon, et je trouvais que ça s'alignait, et puis je me disais, putain, il se passe rien, quoi. Le mec, il est en train de tout péter, et puis il se passe rien, quoi. Les cheminots avaient été un peu esselés dans leur mouvement social, machin et tout, quoi. Et donc, moi, j'avais pas beaucoup d'interactions sociales, en fait, mais tout allait bien pour moi, hein, j'en cherchais pas spécialement. Et du coup, j'ai complètement loupé la phase sur les réseaux sociaux où le truc montait. Je suis allé, ah bon, j'ai jeune, bon, voilà. Après, j'ai vu par la télé, et notamment les chaînes d'infos en continu, le mépris de classe qu'il y avait. Et moi, c'est un des trucs qui m'a fait venir dans le mouvement, en fait. Je me suis dit, mais surtout après le 1er décembre et tout ça. Donc, je suis arrivé dans les manifs en décembre et après dans les AG et tout ça. Et là, je me suis dit, moi, je vais aller voir ce qui se passe quand même, quoi. Il y a un truc historique qui se passe. C'est complètement con de... Enfin, faut aller voir, quoi. Faut vraiment aller voir. Et puis, c'est vrai, moi, j'avais quand même une culture en mode un peu lutte des classes, on va dire. Et là, j'avais l'impression de voir une lutte des classes qui était en train de se dérouler. Et je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe. Donc voilà, bon là on a fini un peu la première partie de présentation, un peu de témoignage. On va peut-être passer un petit morceau. Donc je vous propose du rap Gilet Jaune avec Destin de Toulouse.
Moi j'adore.
La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un frein, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle, je te parle pas d'appétit. Il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise, que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Elysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent. Et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés d'un masque à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils. Des flics, des CRS nous chassent de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés. Enfants en bas âge et personnes âgées, ils en profitent pour tout gazer. Dans dans les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banque éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe, c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous, mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que t'as hurle, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là, planté devant les flics, et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de la manif, et que tu vois les flics se ganter, des minutes après tu vois passer des visages ensanglantés. Et comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue? Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Tu vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés. Le peuple avec un manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y'a aussi des flics déguisés aux matraques aiguisées qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle même paraît être la marionnette du mal qu'il inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé, c'est propagé dans le monde entier. Faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? C'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier?